L'entraide est au cœur de la vie ordinaire. Elle fait partie de ces liens sociaux qui fondent et perpétuent les collectifs et les sociétés. Famille, voisinage, amitié et citoyenneté, autant de formes de liens sociaux qui nous permettent de vivre ensemble. Dans le champ du handicap, de la santé mentale, il existe des formes d'entraide spontanée et ce qu'on appelle le soutien entre pairs, P-A-I-R-S. L'accompagnement et le soutien entre pairs, s'ils sont également une forme de solidarité, ne peuvent être confondus avec celle qui peut exister spontanément entre proches. Cette entraide est fondée sur la reconnaissance d'un autre, vivant une épreuve semblable à celle que l'on vit ou que l'on a traversée. C'est une forme d'entraide entre personnes handicapées, ayant vécu ou vivant encore des situations et des épreuves similaires. Peu importe que cet autre soit un proche ou non, qu'il soit préalablement connu ou pas, seul le fait de vivre ou d'avoir vécu des situations semblables importe. L'entraide entre pairs repose sur un constat. L'action d'un seul ne suffit pas toujours à dépasser une situation difficile ou à résoudre un problème récurrent. C'est pourquoi l'entraide d'autrui est nécessaire, plus encore celle du pair ayant de l'expérience. L'accompagnement par les pairs est tout autant utile à autrui qu'à soi-même. Cette solidarité réciproque correspond aux deux facettes d'une même dynamique, un individu ayant besoin du soutien d'autrui pour se venir en aide et inversement. Enfin, ils partagent des ressources, des repères et des savoirs qu'ils ont appris ou construits sur la base de leur expérience du handicap, de la maladie chronique ou des troubles de la santé mentale. Et cette mise en commun peut se révéler d'une grande richesse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville, l'émission consacrée à la recherche universitaire. Notre invité aujourd'hui est Eve Gardien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'université Rennes 2, responsable scientifique du programme de recherche expert, chercheur au laboratoire CNRS Espace et Société, CNRS pour Centre National de la Recherche Scientifique. Pendant une heure, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et Christian Lebar pour la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne, professeur de sciences politiques. Bonjour Christian.
Bonjour.
Colette, vous avez la parole.
Le pair, P-A-I-R, n'est pas un parent, ni un ami. C'est pas un médecin ni un soignant traditionnel. Le dictionnaire le désigne comme l'égal, le confrère, celui qui a vécu la même expérience que nous. Mais pour vous, Eve Gardien, comment définiriez-vous ces pairs dont vous étudiez la mission, le statut, le rôle depuis plusieurs années ?
Bien, alors, il se trouve que il s'agit d'un vaste débat qui a cours aujourd'hui en France, mais pas seulement en France. Depuis la mise en œuvre par les politiques publiques françaises, et notamment dans le secteur social et sanitaire, de nouvelles missions auprès de nouveaux acteurs du champ qui donc sont appelés les PAIR, P-A-I-R, et avec un S parce que bien sûr ils sont quand même nombreux. Donc ce débat vient de là, mais ceci dit, les PAIR existaient bien avant que les politiques publiques s'en saisissent et décident de les instituer et leur donner un rôle spécifique. Et donc les PAIR existent probablement depuis, on va dire, si même on regarde les archives, au niveau historique, etc., on en retrouve pratiquement à tous les siècles quand c'est possible d'avoir des archives de bonne qualité. Donc c'est pas un phénomène social nouveau, les PAIR. Ce qui est nouveau, c'est que les politiques publiques s'en saisissent. Et depuis que les politiques publiques s'en saisissent, effectivement, il y a des enjeux autour de définir les missions, définir les rôles, définir les interactions entre les différents acteurs. Et par conséquent, qui est responsable de quoi, qui est légitime pourquoi, etc. Et donc, il y a aussi la question de qui a le pouvoir sur quoi. Et puis, il y a aussi la question des subventions. C'est une redistribution aussi de financement éventuellement. Voilà, donc c'est depuis que c'est saisi par les politiques publiques que donc le débat sur la définition du pair est devenu, on va dire, un enjeu majeur. À la fois parce que les personnes directement concernées, comme les pairs, se saisissent de cette occasion pour amener leur propre définition et essayer de faire poids sur le débat, à la fois parce que il y a des enjeux du côté de chacun des types d'acteurs et que chacun donc essaye d'arriver à, on va dire, une sorte de consensus qui soit favorable. Voilà. Donc le débat vient plutôt de là. Mais ceci dit, qu'est-ce qu'un pair ? Un pair, c'est avant tout une personne qui a vécu une expérience plutôt rare, ou en tout cas, qui peut la vivre encore. Et quand on entend expérience plutôt rare ou qui la vit encore, on entend une expérience pour laquelle finalement la culture dans laquelle on vit ou la microculture dans laquelle on vit a peu de savoir à mettre à disposition pour penser l'expérience. Voilà, donc ça l'enjeu en fait, c'est que la plupart d'entre nous dans la vie de tous les jours, on a à disposition ce qui nous est nécessaire pour comprendre notre quotidien et l'assumer de manière tout à fait honorable. Et il y a des personnes qui se retrouvent dans une situation où finalement on a les savoirs médicaux, on a les savoirs techniques, mais la vie quotidienne elle-même avec la maladie, avec la situation de handicap, etc., à cet endroit-là précis, la société est assez pauvre en fait, et elle met peu de savoirs à disposition pour faire face.
De donner des exemples des domaines où ces pairs interviennent, s'il vous plaît.
Alors, les espaces sociaux où peuvent intervenir les pairs sont extrêmement vastes. Vous avez par exemple des hôpitaux qui en ont recruté. Là, je sors actuellement d'une enquête de terrain dans un institut de cancer du sein, où là, le père est un ancien patient, une patiente, enfin c'est même deux patientes puisqu'il y a deux postes, et elles sont là donc pour accueillir les patients, les aider à s'orienter, les aider à comprendre leur expérience, les aider à trouver les bonnes ressources, dans tout ce qui concerne non pas le soin mais la vie quotidienne. Bien sûr, elles aident aussi à articuler avec les professionnels du soin quand c'est nécessaire.
Donc là vous donnez l'exemple de santé, cancer du sein, quels autres exemples?
Alors d'autres exemples, vous en avez... une grande quantité. Vous en avez qui interviennent aujourd'hui dans des équipes de services d'accompagnement à la vie sociale. Vous en avez qui interviennent dans les associations. Il y en a qui interviennent dans les groupes d'entraide mutuelle. En fait, il n'y a pas de lieu où ils ne puissent pas intervenir, puisqu'en fait, ce n'est pas forcément toujours formalisé. C'est formalisé depuis que les politiques publiques s'en saisissent essentiellement, où là, il y a des postes salariés, quelques-uns. Mais le gros du bataillon, c'est avant tout des bénévoles et aussi beaucoup de personnes qui agissent de manière informelle dans la vie de tous les jours. Et donc, je sais qu'il y a eu une histoire de père qui est assez belle, où deux femmes se sont rencontrées dans un bus. Les deux personnes étaient infirmes motrices cérébrales. L'une d'entre elles était assise dans le bus avec ses deux enfants. Et la seconde monte dans le bus, tourne la tête, voit cette femme et lui dit « Mais vous avez eu des enfants ?» Et la seconde est un peu surprise, mais elles entament une conversation. Et en fait, celle qui était assise dans le bus va accompagner l'autre pendant un an pour qu'elle réussisse à avoir des enfants.
Vous avez dit santé, donc maladie chronique,
oui.
Par exemple cancer, diabète, santé mentale beaucoup,
important.
Psychiatrie, addiction, toxicomanie, alcoolisme, grande précarité. Ça, c'est les grands domaines.
Du point de vue des politiques publiques, oui.
Quand vous dites du point de vue des politiques publiques, le fait qu'il y ait maintenant des pairs salariés d'institutions ou d'associations et tout, ça, c'est relativement récent.
On va dire, oui, on va dire que pour la plupart des postes, c'est relativement récent. C'est-à-dire que les politiques publiques s'en occupent depuis, réellement investissent ce type-là de figure depuis le tournant des années 2010.
D'accord.
Voilà, donc depuis 2012, on a eu les premiers recrutements de médiateurs santé-pairs, donc là dans le champ grande précarité santé mentale, avec deux salariés dans les équipes un chez soi d'abord. Donc là, il y avait deux salariés pairs aidants. Ça, c'était les premiers recrutements. Et parallèlement, il y a eu aussi en psychiatrie une formation avec un DU universitaire de médiateurs santé-pairs, où là, ils ont été recrutés également dans des établissements de psychiatrie. Donc ça a vraiment démarré avec du côté grande précarité et santé mentale psychiatrie en France.
Christian Lebar.
Oui, je voudrais revenir sur... une question que vous avez évoquée d'un mot en passant, mais qui me semble absolument centrale, qui est la question de la légitimité des pairs à s'inscrire via les politiques publiques, vous le disiez, dans, par exemple, donc, des actions en direction des personnes qui souffrent d'un problème de santé mentale, pour rester sur cet exemple-là. Il me semble que... ce qui est vraiment intéressant dans ce que vous dites, c'est que la place du père, elle est d'autant plus reconnue qu'il y a un certain désarroi scientifique. Au fond, c'est à partir du moment où le savoir expert, savant, un peu surplombant, fait le constat qu'il ne suffit pas à la prise en charge de la personne, à sa guérison, que du coup, on en vient à en appeler à l'expérience des pères en disant, ben finalement, puisque, en résumant, on pourrait dire, cette pathologie, on n'arrive pas à la saisir de l'extérieur, donc on va peut-être la saisir de l'intérieur à partir de l'expérience de ceux qui l'ont, vécu. Donc j'ai l'impression que ça fonctionne un peu comme un indicateur de non pas des limites de la médecine traditionnelle, mais de, disons, des savoirs experts un peu surplombants. C'est comme ça qu'il faut le comprendre.
Je ne suis pas certaine. Je vais revenir sur des éléments historiques peut-être pour permettre de comprendre le cheminement qu'a construit tout ça, et notamment si on reste sur le champ psychiatrie santé mentale. Ça a beaucoup démarré aux États-Unis dans les années 80. Il y a eu un mouvement social des Users and Survivors of Psychiatry, et donc les usagers et les survivants de la psychiatrie, un mouvement social international, mais qui a vraiment été dont le cœur était aux USA. Et là, il y a eu la promotion de ce qui s'appelait le rétablissement. Et le rétablissement, c'était le terme qui était utilisé pour dire guérir, dans le champ de ce qui était à l'époque la psychiatrie aux USA. Mais c'était aussi le terme qui était utilisé par ces fameux users and survivors pour dire, non pas guérir, mais vivre une vie de qualité avec les symptômes, avec la maladie. Et c'est là qu'il y a eu un enjeu, et c'est là qu'il y a eu quelque chose qui a basculé. Aujourd'hui, aux USA, comme au Canada, comme en Grande-Bretagne, les politiques publiques en psychiatrie santé mentale sont des politiques publiques orientées rétablissement. Et l'idée n'est pas de viser à ce que les personnes n'aient plus aucun symptôme, qu'elles n'aient plus aucun déficit cognitif, mais bien qu'elles sachent vivre d'une manière qui ait du sens à leurs yeux et d'une manière utile pour la société. Et donc, par conséquent, comme l'objectif n'est plus la guérison, eh bien, il y a d'autres savoirs qui sont nécessaires. Et d'accord. Ces autres savoirs viennent du changement d'objectifs et de priorités des politiques publiques, notamment.
D'accord. Alors, j'ai commis une erreur en parlant de guérison, effectivement, qui est un mot malheureux et un peu... Mais du coup, le raisonnement vaut quand même. C'est-à-dire, c'est quand même parce que... C'est justement parce qu'il faut, en quelque sorte, vivre avec la maladie ou faire avec, que l'expérience de ceux qui sont dedans est considérée comme légitime, recevable et incontournable.
Alors, très exactement, ce qui a été montré dans les années 80 par l'OMS, c'est une première recherche internationale longitudinale sur la schizophrénie. Et ce qui a été montré dans cette recherche donc internationale par l'OMS, c'était que il y a 30% des personnes qui vont arrêter d'avoir des symptômes. Je parle de schizophrénie. Environ 30% qui vont... retrouver une vie qui a du sens et pouvoir s'inscrire à nouveau dans une vie ordinaire, et ça complètement en dehors des services et établissements, hein, simplement en milieu ordinaire, et puis 30% qui vont se chroniciser. Autrement dit, il y a 60% de personnes qui vont aller mieux, que ça soit une guérison au sens médical du terme, ou que ça soit simplement une vie qui vaille le coup d'être vécue et pour laquelle on a envie de se lever le matin. Voilà. Et donc par conséquent, c'est là qu'on a commencer à penser autrement, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas à viser que les 30% où il n'y a plus de symptômes. Il faut aussi viser les 30% où les gens vont mieux. Et peut-être qu'on pourra diminuer le nombre de chronicisations.
Et c'est là que les pères interviennent.
Et oui, parce que ceux qui savent aller mieux, eh ben c'est ceux qui ont les savoirs sur la vie avec. D'accord. Voilà. Et non pas ceux qui savent réduire les symptômes ou qui savent réduire les déficits cognitifs.
Mais est-ce que savoir et l'avoir vécu suffit pour être père ?
Alors, si vous parlez d'accompagner ses pères, non, bien évidemment. Il y a beaucoup d'autres qualités qui sont requises. Il y a, on va dire, pour l'instant, pas de consensus sur les fiches de poste et leur contenu. Mais globalement, s'il y a un point qui vaut, qui est d'avoir l'expérience... Donc d'avoir l'expérience d'un trouble de santé mentale, d'avoir l'expérience de la vie à la rue, d'avoir l'expérience d'une situation de handicap, etc. Tout ça, c'est effectivement une condition sine qua non, Mais en même temps, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les relations humaines, ça n'a pas de sens d'être dans ce type-là de poste. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas pédagogue, qui ne sait pas se faire comprendre, ça n'a pas d'intérêt non plus d'être dans ce type-là de poste. Il faut qu'on puisse vous comprendre. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas bienveillant, et voire même agressif, ben c'est pareil, ça n'a pas beaucoup de pertinence pour vous d'être là, ni pour vos pairs, etc. Donc c'est plutôt la question de savoir établir une relation de pair, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'expérience. Par exemple, vous pouvez avoir une maladie, un trouble de santé psychique important, comme la bipolarité ou la schizophrénie, etc. Et ça ne se voit pas. Et donc, plein de gens ne pourront pas s'identifier à vous et donc faire de vous leur père. Donc, d'abord, il y a la capacité à montrer de soi son expérience, à la dévoiler de manière intéressante, permettre à l'autre de pouvoir s'identifier ou pas, et réciproquement, être capable de s'identifier à son père. Si l'identification n'est pas réciproque, alors on n'est pas dans une relation de père, mais dans une relation d'aide assez commune, en fait. Et c'est tout le risque. C'est tout le risque de cette professionnalisation, c'est d'amener progressivement par l'acculturation dans une équipe de professionnels qui ne sont pas des pairs. Et en général, le pair est seul. Comme n'importe quel individu, on finit par prendre le pli du collectif dans lequel on travaille. Et un certain nombre de pairs aujourd'hui deviennent des bons professionnels, mais pour autant ne pratiquent pas une activité de pair.
Ça, on y reviendra, mais dans votre livre, L'accompagnement par les pairs, enjeux de participation et de professionnalisation, que vous avez dirigé avec une équipe de chercheurs, il y a des exemples où un des aspects de l'identification ou pas, c'est aussi, ce qui m'a étonné en lisant, des phénomènes de rivalité, de jalousie, y compris en fonction, je ne sais pas si c'est les mots exacts, du degré de, par exemple, d'une maladie. Le père est peut-être déjà s'en est sorti, pour prendre le dire trivialement, alors que le ou la malade est encore en plein dans une phase de traitement d'incertitude et tout. Et ça m'a intéressé comme relation.
Là, on n'est pas dans une relation de père. Là, on est dans des personnes qui ont un statut de père et qui se rencontrent parce qu'il y en a une qui doit être accompagnée par l'autre. Mais là, on n'est pas dans la relation de père. C'est toute la subtilité, en fait, de savoir de quoi on parle.
D'accord.
Les organisations, les institutions, les établissements parlent de père au sens de quelqu'un est dans un statut et on lui a donné ce rôle et là, telle fonction. Mais là, je vous parle de la relation, et dans la relation, c'est autre chose. Et quand on s'identifie l'un à l'autre, ce n'est pas la question de la jalousie qui émerge, c'est ce qu'on reconnaît de soi dans l'autre. Par contre, effectivement, quand une personne qui a une fonction rencontre une autre personne qu'elle doit accompagner, aider, etc., il peut y avoir ce type-là de rapport qui se met en jeu. Oui, bien sûr, c'est très humain. Donc ça arrive. Je dirais que ce n'est pas ce que j'ai le plus souvent observé. Je dirais même que c'est globalement plutôt rare. C'est plutôt l'effet inverse, je dirais, qui est observable, c'est-à-dire que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui va mieux et pour lequel c'est pas tant, c'est plutôt une source d'espoir. C'est plutôt ça qui est constaté de manière récurrente, on va dire. Ça serait plutôt le phénomène majeur. Voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est intéressant que ces personnes-là soient présentes.
Christian.
Alors, vous avez parlé de professionnalisation, de fil de poste, donc c'est vraiment intéressant parce que voilà, on bascule dans un univers professionnel, bureaucratique, etc., alors qu'on parle de personnes qui, par exemple, sont atteintes des pathologies que précisément elles vont aider à soigner du fait de leur expérience. Est-ce que vous êtes intéressé à ce que le statut de père faisait en termes, par exemple, d'aller mieux ou moins bien à la personne même qui endosse le statut, étant entendu que ce qui est très curieux dans cette affaire, c'est que ce qui est a priori une fragilité, voire un stigmate, devient une ressource pour trouver du travail, pour devenir salarié. Donc on a une espèce de renversement. Alors est-ce que ce renversement, il produit des effets sur les personnes un peu euphoriques? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque peut-être d'enfermement dans une identité liée à une pathologie, par exemple?
Alors, il y a plein de niveaux de réponse.
J'imagine qu'il y a tous les cas de figure.
Question. Hein. Mais d'abord, il y a un premier élément qui est que lorsqu'on est père, c'est pas par rapport à une pathologie, c'est vraiment par rapport à une expérience. Et un exemple que je donne couramment est celui d'une personne aveugle qui a accompagné des étudiants tétraplégiques pour s'inscrire dans leur vie sur les campus, parce que lui-même avait connu 40 ans plus tôt une inscription sur le campus qui avait été assez compliquée, mais dont il s'est assez bien sorti. Mais voilà, donc c'était une personne aveugle qui était capable d'apprendre à des personnes tétraplégiques comment nouer des liens avec d'autres étudiants, qui leur soient à la fois favorables, puis qu'ils puissent trouver de l'aide dans un certain nombre de, je ne sais pas, par exemple, prendre des notes, des choses comme ça, mais sans en même temps se mettre en situation d'être dépendant, d'être redevable, etc. Comment gérer la relation humaine de manière à ce que chacun ait l'impression de donner, et non pas que l'un recevrait et l'autre donnerait. Voilà, donc... Et là, donc, ils n'étaient pas du tout sur la même pathologie. Donc, à ce premier niveau, ce n'est pas une question de pathologie, mais ça peut tout à fait. C'est vraiment la question de l'expérience en commun, et là, en l'occurrence, devoir s'inscrire sur un campus alors qu'on n'a jamais vécu... on n'a jamais vécu ce type-là de relation avec des étudiants dans un nouveau monde, finalement. La deuxième niveau de réponse à votre question, je dirais que aujourd'hui on en est aux prémices de la professionnalisation des pairs en France.
Ça concerne actuellement combien de personnes salariées à peu près?
On n'a pas des chiffres parce que c'est dispatché dans plein de secteurs et donc en fait les statistiques n'existent pas. Mais on va dire que si on en est à 200 ou 300 personnes, d'accord, c'est bien grand maximum.
Il n'y a pas de statut de pair, il y a un statut reconnu ou pas?
Non. Non, non, c'est un débat qui a lieu aujourd'hui entre des fédérations professionnelles, du champ sanitaire et du champ social-médico-social, mais ça n'existe pas encore. C'est une question qui est posée et qui est à la table des négociations. Voilà, donc il y a aussi ce niveau-là, et puis enfin, donc, la question de la légitimité, ben, précisément c'est là que c'est intéressant, c'est que l'argument fondamental de leur légitimité, ce n'est pas la formation, c'est leur savoir expérientiel, donc le savoir qu'ils ont tiré de l'expérience. Mais effectivement, là, du coup, une autre qualité qui est requise, c'est une capacité de réflexivité pour tirer et mieux comprendre sa propre expérience et pouvoir en faire bénéficier les autres. Il y a d'autres éléments qui expliquent, mais aujourd'hui qui ne sont pas avancés couramment, mais en tout cas qui ressortent des recherches, des récents résultats, des recherches menées... enfin, que je mène. Et par exemple, ce dont on se rend compte dans les échanges entre pairs, quand c'est réellement une relation de pair, hein, donc quand il y a l'identification réciproque qui est en jeu, il y a un processus qui est que lorsque le premier évoque sa propre expérience, ça vient réveiller ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Et donc, des souvenirs complètement enfouis, qui étaient non conscients et sur lesquels on ne pouvait pas travailler, ressurgissent à la conscience du second et réciproquement. Mmh. Ce qui fait que les deux éveillent tous les deux, éveillent réciproquement tout un tas de mémoires, en fait, hein, qui étaient enfouies et sur lesquelles il est possible de retravailler pour mieux comprendre ce qui nous est arrivé et mieux comprendre comment c'est possible de faire autrement avec.
Ève Gardien, on fait une pause musicale. C'est Amadou et Mariam qui nous interprètent Africa, mon Afrique.
Je m'en vante.
Vous venez d'entendre Africa Mon Afrique d'Amadou et Mariam. Vous écoutez Canal B, de retour dans Chercheurs en Ville, émission consacrée à la recherche universitaire. On reçoit aujourd'hui Eve Gardien, responsable scientifique du programme de recherche expert, chercheur au laboratoire CNRS Espace et Société. Et aujourd'hui, on parle des PAIRS, PAIRS P-A-I-R-S, les relations d'entraide entre personnes handicapées ayant vécu ou vivant encore des situations et des épreuves similaires. On reprend avec Colette.
Eve Gardien, expliquez-nous encore quelle est la spécificité de cette relation des PAIRS. Qu'instaurent les PAIRS ?
La relation entre PAIRS est un lien social spécifique, en fait, qui se caractérise par un... Je peux vous décliner un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, quand deux PAIRS se rencontrent, très souvent... D'abord, c'est la découverte que l'autre aussi a vécu cette expérience. Bon. Et cette découverte-là, comme c'est une expérience qui est relativement rare, c'est aussi souvent, ça peut être souvent un soulagement. Enfin, quelqu'un avec qui je peux parler. Donc ça, c'est la sortie de la solitude. Quand ils rencontrent un groupe de pairs, on parlait de groupe de malades tout à l'heure, eh bien, c'est pouvoir appartenir à une communauté dans laquelle on peut vraiment... s'ouvrir sur son expérience sans que ça soit gênant, sans que ça soit démobilisant, sans que ça soit déprimant pour autrui. C'est pas toujours facile pour l'entourage d'entendre tout ce que vit une personne qui sort d'une séance de chimiothérapie ou tout ce que vit une personne dont les voix la persécutent au quotidien, par exemple. Hein. Les proches, même s'ils aiment beaucoup cette personne, ne peuvent pas toujours tout entendre. Et ne croient pas toujours ou ne sont pas prêts à entendre certaines choses. Simplement, pour eux, c'est pas forcément, n'a pas beaucoup de sens. Et ça, c'est un élément essentiel de la relation de pair. On constate que les gens sont pairs parce que, aussi, ils sont réciproquement dans l'idée que l'autre va les comprendre. Ils savent que l'autre l'a vécu, donc quand ils vont en parler, l'autre va pouvoir comprendre. Enfin, quelqu'un qui va pouvoir comprendre. C'est l'idée qu'on va pouvoir être compris correctement, et pas mal interprété, mal compris, etc.
Ça veut dire que si je suis un pair pour toi, tu en es un pour moi ?
Je vous parle de relation de pair, donc d'identification réciproque. Donc les deux se sont reconnus dans l'expérience de l'autre. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui s'enclenchent. Ouais.
C'est une reconnaissance mutuelle.
C'est ça. Et complètement subjective et singulière. C'est pas parce que vous avez vous-même vécu, je sais pas, vous-même vous vivez en fauteuil électrique, que moi qui vis en fauteuil électrique vais me reconnaître en vous. Mais si ça se joue, si la relation de pair se déclenche, alors il y aura ce sentiment que l'autre va nous comprendre, et réciproquement. Il y aura une plus grande confiance, parce que lui-même, il connaît tout ce que c'est que... tous les effets de stigmatisation, tous les effets de discrimination qui sont liés. Et donc, on a a priori le sentiment que lui-même ne va pas surajouter à l'épreuve qu'il vit déjà, qu'il ne va pas le faire vivre à autrui. Donc, plus grande connivence aussi, parce que vous regardez un peu le monde de la même manière, au sens où vous avez du mal à vous faire comprendre, vous avez du mal à développer un certain nombre de choses dans votre existence parce que des savoirs vous manquent, parce que le monde n'est pas adapté pour vous et à ce type-là d'expérience, mais plutôt à une expérience plus standard. Et là, en l'occurrence, l'autre aussi vit ça. Et donc, il n'y a pas besoin que vous lui expliquiez ou vous tentiez de lui expliquer. Quand vous communiquez, lui-même vous répond des choses qui montrent de manière évidente que lui aussi ressent l'expérience de cette manière-là. Donc il y a de la connivence, il y a une forme d'intimité, on peut aller très loin dans... parce qu'il n'y a rien à se cacher, on sait déjà que l'autre le vit, puisqu'on a compris qu'il connaissait cette expérience de manière profonde. Donc on sait qu'on peut aller loin dans les échanges, etc. Donc il y a de l'intimité, il y a de la confiance, il y a de la compréhension, il y a aussi un sentiment de proximité, en fait. On se sent proche parce que l'autre vit la même expérience ou une expérience similaire. Voilà, donc tout ça, c'est des caractéristiques qui émergent et qui ouvrent un champ de relation, en fait, qui est très particulier et qui n'est pas ouvert. On va pas parler de la même manière à son médecin, on va pas parler de la même manière à son conjoint qu'on va parler à son père. Et on va pas parler des mêmes choses.
Ce qui signifie donc qu'on n'est pas père inconditionnellement ou universellement, on l'est par rapport à une personne particulière ou à quelques personnes particulières avec qui on a construit une relation particulière. Mais du coup, moi, ce que je trouve absolument complexe et fascinant, c'est comment on passe de ce registre-là, qui est un registre de la relation avec de la bienveillance, des affects, de l'écoute, de la proximité, etc. Je reprends votre lexique. Comment est-ce qu'on passe à l'institutionnalisation ? Et là, on est sur autre chose qui est... Et là encore, C'est ce que vous disiez tout à l'heure, la file de poste, le
quand
salaire,
on est embauché,
le recrutement, voilà. Donc,
un salaire de contrainte.
Comment on peut faire tenir ensemble les deux dimensions ? C'est ça qui est sociologiquement passionnant, je trouve.
Je dirais que c'est de loin pas facile, et c'était une des raisons pour lesquelles en 2019 on avait organisé un colloque sur ce sujet. Et l'ouvrage en émerge largement. Donc c'est bien un challenge, un défi d'actualité. Pour autant, est-ce que c'est impossible ? Probablement pas, puisqu'on constate sur le terrain que des personnes arrivent à être dans des institutions, des établissements, des services, même des services très organisés, très rationalisés, et pour autant arrivent régulièrement, pas systématiquement, mais régulièrement à établir des relations de pair. Donc c'est pas impossible. Mais c'était effectivement l'enjeu de réfléchir à quels étaient les points majeurs auxquels il faut penser quand on veut que ce type-là de relation puisse bénéficier à des usagers ou à des patients des établissements et services. Et donc, il y a tout un certain nombre d'écueils, en fait, qu'il faudrait pouvoir éviter. Et par exemple, quand on organise et qu'on rationalise l'action dans un établissement, l'écueil qu'il faudrait éviter par rapport aux pairs, c'est de réduire la diversité des pratiques d'accompagnement et de soutien. Voilà, ça peut être une première difficulté. La deuxième,
c'est de donner des exemples.
Les relations de pairs peuvent s'établir, il y a plein de modalités pratiques. Vous avez ceux qui travaillent plutôt en groupe. Voilà, des établissements ne veulent pas toujours qu'il y ait des groupes de pairs. Il y a ceux qui travaillent plutôt en relation duelle. Il y a ceux qui travaillent plutôt sur réseau et informel. Il y a ceux qui travaillent plutôt en forum internet. Il y a ceux qui...
Oui.
Donc il y a plein de modalités pratiques, en fait. Mais même un forum internet peut avoir du sens au sein d'un établissement social, médico-social ou sanitaire. Pourquoi ? Parce que c'est une modalité de communiquer de manière distancielle depuis sa chambre. On peut s'envoyer des messages sur un forum. Et c'est une manière de ne pas être toujours à proximité immédiate ou dans un contexte à proximité immédiate. Et ça permet aussi d'avoir du temps et de répondre aux messages, parfois 2 heures après, 24 heures après, etc. C'est une modalité de communication qui ne produit pas les mêmes effets que quand on est en groupe ou que quand on est en présentiel face à face. Donc c'est intéressant qu'il y ait cette diversité de pratiques, mais c'est pas souvent la manière dont pensent les organisations rationnelles, on va dire, hein, du travail. Et par conséquent, elles ont tendance à imposer un peu le modèle d'accompagnement en face à face, de manière duelle, de manière un peu systématique, alors que ce n'est pas forcément le plus pertinent, suivant les effets qu'on souhaite obtenir.
Mais comment par exemple, dans un hôpital, dans une clinique, etc., comment est-ce que les médecins, les soignants, les infirmiers et infirmières accueillent le pair ?
Alors la question du pair, que ce soit le secteur social, médico-social ou le secteur sanitaire, je pense que très souvent, c'est les mêmes questions qu'on s'est posées aujourd'hui, c'est à quoi ça sert un pair ? Et comment ça se passe ? Ce qui veut dire que finalement, c'est encore quelque chose qui est peu abordé en termes de formation professionnelle, qu'on soit travailleur social ou soignant. Et que donc, quand un pair est introduit souvent dans les services ou dans les établissements, il y a une grande quantité de professionnels qui n'en voient pas l'intérêt, et voire même qui peuvent se montrer inquiets et de manière, je dirais, assez légitime, tant qu'on n'a pas compris ce que peuvent apporter les savoirs issus de l'expérience. Pourquoi ? Parce que, effectivement, certains s'inquiètent de est-ce qu'une personne qui aurait eu un diagnostic de schizophrénie ne risquerait pas de décompenser ? Est-ce qu'une personne qui a, une maladie chronique va pouvoir toujours assurer son poste ? Ou est-ce qu'il va falloir penser qu'il y a des moments où il y a des remplacements, qu'elle ne pourra pas toujours être là ? Enfin, donc, il y a toute une série d'inquiétudes, et aussi peut-être l'inquiétude la plus souvent amenée par les professionnels. Enfin, il y a deux grandes inquiétudes. C'est un, cette personne-là pourra-t-elle faire face émotionnellement à tout ce que vont lui raconter ses pairs ? Parce que ça va réveiller plein de choses très douloureuses, peut-être, de sa propre expérience. Et donc, il y a ce souci de protéger le pair qui est courant. Et puis, l'autre, c'est ce pair ne va-t-il pas prendre nos postes ? Et là, c'est plutôt une défense vis-à-vis du pair. Hein. Et ça, c'est vraiment les deux réactions les plus courantes. Et je dirais que dans les deux cas, La question de prendre des postes au regard du peu d'importance numérique, des postes effectivement salariés, je dirais que la question ne se pose pas véritablement maintenant. Mais par contre, la question s'est posée pour n'importe quel nouveau métier. Quand on a introduit les conseillers en économie sociale et familiale, les éducateurs se sont inquiétés du fait qu'on pourrait prendre leur poste. Mais on voit bien qu'un conseiller en économie sociale et familiale apporte tout à fait autre chose en termes de compétences. Et que finalement, ce n'est pas un poste contre un poste, c'est on apporte de nouvelles compétences dans une équipe pluridisciplinaire.
Mais au regard du peu de salariés, pour reprendre vos termes actuellement, dans votre livre, il y a plusieurs exemples de, vous appelez ça des micro-agressions, de la part de l'équipe soignante, des moqueries, voire des insultes, des choses très, très, très négatives et méprisantes ou condescendantes vis-à-vis des pères.
Ça arrive, hein. Et en tout cas, effectivement, ça se trouve dans le chapitre où il y a une interview de Shirelle Bellamy, qui est une universitaire de Yale, et qui travaille sur la question aux États-Unis, et qui travaille sur la question des pères en santé mentale. Et donc, il y a des études qui sortent aux États-Unis sur la manière dont se passe l'accueil des pères dans les équipes professionnelles. Et effectivement, donc, le terme de micro-agression est typiquement américain. Et donc, il est montré que c'est quand même assez courant. Ce n'est pas le fait d'une équipe entière, mais c'est le fait de un ou deux membres de l'équipe. Mais c'est quelque chose qui est un process finalement... C'est une forme de harcèlement, finalement, à minima, mais c'est une forme de harcèlement régulier, quasi quotidien, en tout cas plusieurs fois par semaine, et qui provoque des effets sur le moral des personnes qui sont obligées de le subir.
Parce que le père, quand il arrive dans une équipe, ça chamboule, ça change des choses, de toute façon. Non ?
Ben, en tout cas, ça serait souhaitable, probablement, parce que recruter un père, c'est vouloir du changement. C'est souhaiter que d'un nouveau type de compétences puisse se déployer et apporter à une équipe et aux bénéficiaires des soins et de l'accompagnement de l'équipe. Oui et non, parce que quand une seule personne arrive dans une équipe et que l'équipe ne comprend pas quelle est l'utilité de cette personne, il n'est pas sûr qu'elle soit mobilisée réellement par les collègues. Donc il y a tout un temps d'acculturation réciproque qui doit se produire. Et il se trouve que de très loin, quand il y a acculturation, le fait que l'équipe numériquement soit pas père, ça a un impact. Et le risque est beaucoup plus important que le père devienne un bon professionnel qu'il y ait des changements absolument énormes dans une équipe. Faudrait-il d'abord que le père soit très charismatique.
Mais je trouve que ce qui est quand même intéressant, c'est que ça, pour aller dans le sens de ce que disait Colette, ça subvertit quand même assez fondamentalement l'ordre ancien sur lequel s'est construit, disons, l'État-providence ou l'État qui prend soin de nous, hein, c'est-à-dire des institutions dans lesquelles il y a quand même une frontière qui n'est pas poreuse entre ceux qui savent et qui sont entre guillemets en bonne santé, puis ceux qui souffrent de pathologies et qui du coup doivent s'en remettre au précédent. Et là, on a une figure qui voyage d'un espace à l'autre, hein, puisque on part de la condition de malade et on en fait ressource au lieu... et c'est au nom de cette ressource que on peut un peu voyager d'un espace à l'autre. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de réflexivité, parce qu'effectivement, pour devenir soi-même père, il faut faire preuve de réflexivité par rapport à, par exemple, à la pathologie dont on souffre. Mais quand même, est-ce que cette réflexivité qui peut être très variable selon les individus. Enfin, il y a mille façons de vivre un cancer, une schizophrénie, etc., j'imagine. Est-ce que cette réflexivité, elle n'est pas quand même un peu accompagnée? Est-ce qu'elle n'est pas encadrée? Concrètement, quels sont les dispositifs de formation qui font que il ne suffit pas d'avoir vécu une épreuve pour avoir le statut de père pertinent et aidant par rapport à d'autres qui vont vivre la même chose? Il faut peut-être que cette réflexivité elle soit prise en charge par l'institution. Ou bien est-ce qu'on fait confiance aux personnes?
Eh bien, en tout cas, c'est Une très bonne question, parce qu'il y a un enjeu majeur à cet endroit, effectivement, c'est faut-il formation ou faut-il pas formation ? Si les savoirs sont issus de l'expérience, alors ce n'est pas dans une formation professionnelle qu'on va pouvoir les trouver, parce que les formations professionnelles vont vous former soit à des aspects très techniques, savoir, savoir remplir un cahier de transmission pour que les collègues sachent ce qui s'est passé et puissent reprendre la suite de l'accompagnement. Et ça, c'est pas la même chose que savoir comprendre sa propre expérience et pouvoir la mobiliser pour comprendre autrui qui vit une expérience similaire. Donc, il ne s'agit pas de ce type-là de savoir technique, il ne s'agit pas de savoir scientifique. Les savoirs scientifiques ne sont pas les savoirs issus de l'expérience de la vie avec... avec un fauteuil électrique. Donc c'est pas de ça dont il s'agit, et donc précisément pour l'instant ce type-là de formation, ça n'existe pas, une formation sur l'expérience de vie avec telle ou telle maladie.
Je peux poser cette question parce que pour moi tous ces débats font écho à des choses que je connais moins mal, qui sont les questions de démocratie participative, concertation avec les habitants, etc. Et on a les mêmes évolutions, c'est-à-dire aujourd'hui on parle, quand on travaille sur la démocratie locale, sur la démocratie participative, on parle d'expertise d'usage par exemple. On considère que les habitants, à partir d'un quartier, à partir du moment où ils sont usagers d'un service public, sont des experts du service public et qu'il faut les entendre. Mais en même temps, tous les travaux montrent que la parole brute des habitants, des usagers, elle n'apporte pas grand-chose. Elle n'est pertinente en termes d'action publique qu'à partir du moment où, j'allais dire, on professionnalise les habitants. J'ai presque envie de dire on en fait des habitants professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'utiliser leur usage et leur réflexivité donc pour se situer dans les cadres de l'institution. Donc il me semble que là, on a un petit peu les mêmes difficultés, les mêmes incertitudes, les mêmes paris.
Alors, en tout cas, aujourd'hui en France, il existe des formations de pair aidant, de médiateur santé pair, etc. Peu, mais il en existe. Et ces formations travaillent pas tant que ça sur l'expérience elle-même. Parce que ce n'est pas ce qu'on sait faire d'un point de vue universitaire ou d'un point de vue professionnel. Mais par contre, permettre ce que vous dites, ce que vous proposez, et qui est important également, c'est-à-dire, par exemple, vous saurez reconnaître l'ensemble des compétences des professionnels qui seront dans votre équipe, et vous saurez donc les mobiliser comme ressources, vous saurez orienter vers eux, vous connaîtrez le secteur et l'ensemble des offres de soins ou d'accompagnement qui peuvent être mises à disposition. Tout ça, vous saurez le faire. Mais c'est pas ça qui vous constitue comme pair. Ça, c'est ce qui vous constitue comme collègue, comme professionnel, comme partenaire. Voilà. Après, la question, c'est être capable d'établir une relation de pair.
Est-ce qu'on peut apprendre à écouter et à raconter, à transmettre sa propre expérience ? Ça peut être quand même.
Et donc, l'apprentissage de l'écoute, oui, mais quelle écoute ? Et tout l'enjeu, c'est est-ce qu'on écoute comme un psychologue ? Est-ce qu'on écoute comme un travailleur social ? Ou est-ce qu'on écoute comme un pair ? Je pense que là, vraiment, il y a quelque chose qui est spécifique du côté des pairs. Je vais vous donner un exemple, sinon on ne va peut-être pas arriver à se comprendre facilement. Je suis dans une ethnographie d'un groupe d'entendeurs de voix. Et il se trouve que récemment, on a eu une situation très, très intense, difficile, avec une personne qui était en grande détresse parce que... une voix d'une petite fille de 6 ans venait de ressurgir dans sa vie et lui faisait la terroriser. Et donc tout le groupe s'était complètement focalisé sur elle pour essayer de la soutenir et de lui apporter quelque chose qui l'aide à reprendre pied face à cette expérience très difficile. Et donc effectivement, autour de la table, la plupart des gens ont vécu ce genre de situation avec des voix extrêmement violentes et agressives. Et tout d'un coup, un père a dit quelque chose auquel moi je n'aurais jamais pensé. Est-ce qu'elle parle, ta voix ? Voilà. À partir du moment où on l'appelle la voix, on pense qu'elle parle. Et toute personne qui n'a pas vécu l'expérience n'imagine même pas qu'une voix puisse ne pas parler. Et c'est ça dont j'essaie d'expliquer, c'est que les savoirs issus d'expérience, c'est pas des savoirs qu'on va apprendre par la transmission professionnelle, c'est pas des savoirs qu'on va apprendre par les sciences, c'est des savoirs vraiment qui sont issus de l'expérience, mais qui fait qu'on va poser une question pertinente. Et la personne a répondu, non, elle ne me parle pas, mais les émotions qu'elle éprouve sont tellement intenses que c'est insupportable. Et là, les émotions d'agressivité, enfin voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, il y a des choses qu'on peut... On peut être un très bon professionnel, un très bon psychologue, un très bon masso-kinésithérapeute, un très bon éducateur, c'est pas du tout quelque chose qui est à discuter, mais on n'apporte pas la même chose que celui qui a compris... Parce qu'il a vécu l'expérience, il ne va pas poser les mêmes questions, il ne va pas avoir les mêmes repères, il ne va pas s'intéresser aux mêmes choses.
Ça fait des années que vous travaillez sur ces thèmes. Est-ce que les pères qui transmettent leur expérience, qui la font passer, etc., qui instaurent cette relation très particulière, qu'est-ce qu'ils vous ont dit et qu'est-ce qu'elles vous ont dit, qu'est-ce qu'ils en retirent ? Et est-ce que la question, est-ce que certains et certaines arrêtent je ne veux plus être père.
Alors, ce qu'ils en retirent, quand ils arrivent à établir une relation de père, voilà, quand la relation de père a lieu, les deux reçoivent, les deux donnent. Donc ils en retirent beaucoup. Par contre, il arrive de travailler en tant que père, avoir cette fonction de père, mais de ne pas arriver à établir des relations de père. C'est pas parce que vous-même avez vécu, je sais pas, vous-même vous avez une personne, vous êtes une personne trisomique 21, qu'une autre personne trisomique 21 va se sentir concernée par votre vie de tous les jours et va vous poser des questions et s'intéresser à ça, parce que pour elle-même, ça pourrait avoir du sens. Donc, non. Donc quand il y a établissement de la relation de père, les deux se donnent et partagent leur expérience et les deux reçoivent. Quand il n'y a pas établissement de la relation de père, ça peut être beaucoup plus usant effectivement, et là il arrive que des pères partent de leur fonction, là j'entends, pas de la relation de père parce qu'elle n'a pas eu lieu, mais de leur fonction parce que il y a quand même une difficulté de reconnaissance dans les équipes professionnelles encore aujourd'hui en France. La plupart des équipes qui reçoivent des pairs ne sont pas formées, ne sont pas sensibilisées, ne savent pas quoi en attendre, donc ne mettent pas du sens sur leurs interventions, et donc c'est toujours un peu difficile. Et puis vous avez aussi des pairs qui subissent ces micro-agressions et pour qui ça devient insupportable, et c'est pas la question des troubles psychiques, hein. C'est vraiment voilà, quand vous avez un ou deux collègues qui vous harcèlent au quotidien, ben voilà, vous pouvez avoir une résumé 21 et trouver ça difficilement supportable. C'est pas la question des troubles psychiques qui est derrière. N'importe qui pourrait être fatigué et usé à terme. Voilà, donc oui, il y a des pères qui arrêtent, mais je dirais qu'il y a beaucoup de conditions environnementales à retravailler autour de ça. Et puis, essentiellement, peut-être comprendre ce que c'est qu'une relation de père pour effectivement permettre à tous d'en bénéficier.
Sur quoi vous travaillez actuellement ?
Alors actuellement, je travaille à théoriser, bien sûr, qu'est-ce qu'une relation de père, mais aussi surtout... qu'est-ce que sont que des savoirs expérientiels et en quoi ils peuvent être réellement utiles dans les accompagnements. Et donc vraiment mettre du lien avec non seulement des exemples, mais aussi comprendre les logiques d'intervention qui sont spécifiques en fait, hein, et donc pouvoir expliquer lesquelles. Voilà, c'est pas parce qu'elles ont lieu et qu'elles ont une efficacité qu'on sait pourquoi et qu'on sait comment.
Christian ?
Oui, donc vous êtes sociologue, vous avez beaucoup publié sur ces questions. Est-ce que les milieux professionnels dont vous parlez, est-ce qu'ils sont intéressés par votre recherche ? Est-ce qu'ils ont réagi ? Est-ce qu'il y a des interactions ?
Très importante, très très importante. Je suis énormément sollicitée par les milieux professionnels. C'est un nombre important des participants qui viennent dans les journées d'études et colloques que nous organisons, peut-être pas la moitié, mais au moins un bon tiers. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes directement concernées, donc c'est même un espace où ils se rencontrent vraiment. Et je suis énormément sollicitée. Par exemple, là actuellement, je suis conseillère scientifique pour un programme national de déploiement de l'intervention par les pairs en France. Voilà, donc c'est un gros programme de déploiement financé par la Caisse nationale de solidarité autonomie. Voilà. Donc ça vous donne une idée de... à la fois l'État français, à la fois les régions, les ARS investissent, la GFIP investit dans ce type-là de déploiement. Donc oui, on est très sollicité sur ces questions-là. C'est vraiment, on va dire, dans le secteur santé mentale, psychiatrie et social, médico-social, un des sujets phares du moment.
Eve Gardien, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous avez dirigé l'ouvrage « L'accompagnement par les pairs ». Enjeux de participation et de professionnalisation, qui a été édité par les presses universitaires de Grenoble et qui coûte 23 euros. Merci Eve Gardien, merci Christian Lebar et notre réalisatrice Claire Viva Pro. Et à bientôt pour une prochaine émission de Chercheurs en Ville sur Canal B.